Jamais je n'aurais imaginé, en prévoyant deux séances de communication sur la France pénitentiaire, sur le parcours pénitentiaire, sur les conditions dans lesquelles on quitte un établissement pénitentiaire, sur la réinsertion après une période d'incarcération, jamais je n'aurais imaginé que ce puisse être aussi actuel. Car quand on voit certains programmes électoraux ou certains propos qui sont tenus ici ou là, nous avons le sentiment que, quoi qu'en ait dit la semaine dernière l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, Laurent Ridel, nos prisons risquent de se peupler encore beaucoup. Alors qu'il nous a bien expliqué, et ça nous sera dit encore aujourd'hui, mais les répétitions ont parfois du prix, qu'en période de surpopulation pénitentiaire, les plus beaux textes, les plus beaux efforts, les engagements les plus intenses des personnels, magistrats, pénitentiaires ou autres, sont réduits à néant, ce qui est quand même bien dommage. Donc nous connaissons tous le discours de fermeté tenu avec aisance par beaucoup de femmes et d'hommes politiques, et cela depuis une bonne quarantaine d'années, depuis que les questions de sécurité occupent, voire suroccupent les périodes électorales. L'équilibre est souvent très difficile à trouver entre ceux pour qui le salut réside dans l'augmentation du quantum des peines, l'instauration de peines planchers, la rétention de sûreté, et ceux pour qui les permissions de sortir, la libération conditionnelle, constituent des moyens souvent utiles et adaptés pour préparer une sortie qui, sauf exception très rare, interviendra obligatoirement. Il faut en avoir conscience. Cette période voyant intervenir trois personnes, le procureur de la République est chargé de l'exécution des peines, les fonctionnaires pénitentiaires, qu'ils soient du milieu fermé ou du milieu ouvert, le juge de l'application des peines, souvent objet de vives critiques, alors que l'on connaît très mal son rôle exact, parfois plus rarement les avocats, s'ils ont gardé le contact avec leurs clients une fois ceux-ci incarcérés. J'en ai connu, lorsque j'étais directeur des affaires criminelles et des grâces, qui ont fait mon admiration, car ils avaient gardé le contact avec des condamnés à perpétuité qu'ils continuaient à visiter et dont ils s'efforçaient de préparer un jour le retour à la vie libre. Ils n'étaient pas nombreux, mais parce qu'ils étaient peu nombreux, ils étaient encore plus dignes d'intérêt. Entrer en prison est une chose, mais comment en sort-on et est-on alors prêt à affronter une société que l'on a quittée plus ou moins longtemps et à s'y réinsérer? Deux personnes vont donc aborder ces différentes questions avec vous aujourd'hui. Cécile Dangle, qui est juste face à moi, a été juge des enfants à Troyes, juge d'instance à Béthune, juge à Lille, où elle est actuellement première vice-présidente au tribunal judiciaire chargée de l'application des peines, mais elle est toutefois, pour l'instant, détachée au contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est un poste d'observation particulièrement intéressant, sans doute par moments déprimant, mais c'est un poste d'observation qui lui donne une légitimité toute particulière pour nous parler aujourd'hui. Elle a, à une certaine époque, je ne sais plus quand, présidé l'Association nationale des juges de l'application des peines. C'est un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle a vécu et qu'elle continue à vivre. Elle revient d'ailleurs d'une inspection d'un grand établissement pénitentiaire, non pas inspection, d'un contrôle général, d'un contrôle d'un grand établissement pour peine. Tout cela est dans sa tête. Comme Véronique Soucet, qui est à ses côtés, elle fut pour moi d'une aide infiniment précieuse lorsque Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, m'a demandé de présider en 2014 une commission sur la refonte du droit des peines. Je leur dois beaucoup car leur expérience est unique. Et Véronique Soucet, qui est à ses côtés, est fonctionnaire de direction de l'administration pénitentiaire. Après différents postes à Caen, à Brest, à Rennes, elle a été avocate, ce qui n'est pas banal et ce qui est fort intéressant. Pensez que quand on dirige un établissement pénitentiaire, on a aussi l'expérience du barreau pénal. C'est intéressant, c'est plus qu'intéressant. Puis elle a réintégré le monde pénitentiaire et elle a notamment dirigé le centre de détention de Nantes, avant de prendre la direction de la maison centrale de Saint-Maur. établissement de longue peine, de très longue peine, qui est sans doute un des établissements les plus difficiles de France. Elle fut directeur du cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire. Était-ce Laurent Ridel ? Non, c'était son prédécesseur. Oui, c'était M. Brodin, Stéphane Brodin, qui est actuellement préfet du Calvados. Elle prend ensuite la tête du centre de détention pour femmes de Rennes, qui est un centre de détention qui accueille des femmes, uniquement des femmes, aussi bien en détention provisoire que pour de courtes ou moyennes peines ou de longues ou très longues peines, sachant que la population féminine carcérale n'a rien à voir avec la population masculine carcérale en termes de nombre. Elle est actuellement directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires à Strasbourg. La réussite de Véronique Soucet dans ses différents postes, les initiatives qu'elle a été appelée à prendre, tout ce qu'elle a mis en place, en particulier pour ce qui a trait à la radicalisation des femmes détenues, ont été constamment saluées. Elles vont donc, comme nous l'avons fait déjà, pour le syndicalisme judiciaire, pour le regard de la presse sur le monde judiciaire, comme nous l'avons fait pour la cour d'assises et les cours criminelles départementales, et comme nous le ferons à la rentrée, nous aurions dû le faire plus tôt, pour la place des victimes dans le procès pénal, elles vont se partager le temps de parole alloué aux communicants, puis elles répondront à vos questions, soit séparément, soit communément. Ce sera à elles de décider. Cécile, vous avez la parole.
Merci. Oui, le micro marche. Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs. C'est un honneur de venir devant votre assemblée exposer le concret d'un métier que j'aime et au cours duquel j'ai fait de si belles rencontres. J'y ai trouvé l'humain dans ses multiples déviances, et l'humain qui étonne favorablement et évolue là où on ne l'attend plus. Je vais vous parler de prison, je vais vous parler de peine, de ce que nous pouvons en attendre. Mais avant que nous entrions en prison, il faut expliquer ce qu'est ce métier de l'application des peines dans notre système de droit pénal. Il faut bien avoir en tête que l'application des peines, c'est un nouveau procès. Le mouvement général du droit pénal, c'est celui de l'individualisation. L'individu est placé au cœur de notre travail, de nos préoccupations, non pas un individu figé, ramené à l'acte commis, mais un individu dans son parcours, dans son évolution, dans son contexte de vie. Le procès pénal, au cours duquel il est débattu en même temps de la culpabilité et de la peine, ne met pas un terme au processus de justice. Depuis 1945, l'idée d'une exécution individualisée de la peine s'est imposée. Il s'agit de tenir compte de l'évolution, des efforts de la personne, des efforts faits pour, finalement, ensuite, nous adapter dans les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement. Le juge au niveau correctionnel ou de la cour d'assises a une compétence juridique à ce moment-là pour trancher de la validité d'une procédure, pour régler les questions de nullité de procédure soulevées, décider si l'acte passé relève d'une infraction, s'il est imputable à telle personne et avec quel degré de responsabilité. Mais une fois la culpabilité prononcée, en fonction de la gravité de l'acte et de ce que l'on sait à ce moment-là, du parcours de la personne, une peine peut être fixée. Commence alors le nouveau procès de l'application de la peine. C'est là le cœur du travail du juge d'application des peines. Nous, on l'appelle le JAP, le juge d'application des peines. Si vous m'en voulez bien, de temps en temps, j'utiliserai ce terme, le JAP. Ce travail-là, ce n'est pas un travail à un instant T, c'est un travail dans le temps. Et la phase de mise en application de la peine est résolument tournée vers l'avenir. Et elle impose, de ce fait, de multiples réajustements, un tissage de liens, de partenariats. Et c'est ainsi que le JAP doit travailler la peine. Ce qui parfois est mal compris par ceux qui pensent que ce juge-là défait ce qui a été si bien décidé à un moment donné devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Dans ce travail-là, il faut rester évidemment humble et prudent. La prison existe et nous l'utilisons, mais des données scientifiques mettent en question son efficacité. Et peut-être que l'histoire nous jugera-t-elle sévèrement d'utiliser si largement la peine d'incarcération. La conférence de consensus sur la prévention de la récidive, réunie en 2013, a été un tournant pour le monde judiciaire. Pour la première fois, une méthode novatrice empruntée du monde scientifique dressait un état des connaissances et proposait des recommandations. Le rapport du jury s'ouvrait par ce propos que je vous lis. À la lumière des connaissances scientifiques et professionnelles rassemblées par le comité d'organisation ainsi que des auditions publiques, le jury estime nécessaire de reposer la question du sens et des finalités de la peine. Il considère que la sanction pénale doit, pour garantir efficacement la sécurité de tous, viser en priorité l'insertion ou la réinsertion des personnes qui ont commis une infraction. Il estime qu'il dispose d'éléments fiables pour remettre en cause l'efficacité de la peine de prison en termes de prévention de la récidive. En conséquence, le jury propose une nouvelle peine, la peine de probation. Elle garantirait une visibilité, une crédibilité d'une peine contraignante, orientée vers la prévention de la récidive, favorisant l'insertion de la personne condamnée. Afin de garantir son intégrité, il importe que cette peine soit prononcée sans référence de la peine de prison. De plus, le jury recommande de s'orienter vers une politique de limitation de l'incarcération. Nous sommes en 2013, et ces mots ont été un choc pour moi, qui exerçais alors les fonctions de présidente d'une chambre correctionnelle et qui prononçait si régulièrement des peines d'emprisonnement, y compris des peines de courte durée, car nous pensions presque tous, magistrats du pénal, qu'une courte peine d'emprisonnement pouvait avoir une valeur pédagogique. Remettre en question nos habitudes, nos modes de pensée n'est pas chose facile. Peu après la conférence de consensus, je suis devenue juge de l'application des peines. J'ai alors expérimenté ce qui marche au sens de la conférence de consensus pour prévenir la récidive. J'ai été aidée dans mon cheminement par des études, notamment celle sur la désistance, qui décrit le processus de sortie de la délinquance. J'ai été aidée également par la mise en œuvre de dispositifs innovants, accompagnant les personnes en milieu dit « ouvert » en comparaison du milieu fermée qu'est la prison. Alors, le cadre du travail du juge d'application des peines, son credo est contenu dans un article phare qui est l'article 707 du Code de procédure pénale. Et il s'articule en trois points essentiels à mon sens. D'abord, ce qu'il dit, c'est que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société, et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Voici donc un postulat qui relie insertion-prévention de la récidive, en espérant que les deux aillent bien de pair. Ce que dit cet article également, c'est « ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité, de la situation matérielle, familiale, sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières. On souligne là donc l'importance de l'évaluation et l'adaptation nécessaire, constante, à l'évolution de la personne. Enfin, il est indiqué que toute personne condamnée, incarcérée en exécution d'une peine bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté, en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire. Il convient donc, dans le travail du juge, de rechercher cette progressivité dans le retour à la liberté en tenant compte de la réalité de la vie dans nos établissements pénitentiaires. Cet article, il nous indique clairement que la prison n'est pas une fin en soi, qu'on doit y travailler des choses et qu'on doit se préparer à en sortir. Et compte tenu des possibilités d'aménagement de peine, la préparation à la sortie doit s'imaginer dès l'entrée en détention. Et peut-être même, d'ailleurs, que tout ce qui est le processus d'évolution d'une personne et de travail du juge se conçoit bien avant même le passage devant un tribunal, peut-être dès la garde à vue, dans une projection que l'on peut faire par rapport à l'acte commis et ce qu'on va attendre de la réaction de la société. Alors, de quoi dispose le juge comme outil pour ce travail, cette tâche que je viens de vous décrire, qui résulte de cet article phare du Code de procédure pénale? Dans le cadre de la prévention de la récidive, plus nous avons des armes pour dire non si pour différentes raisons la personne n'est pas prête à s'engager avec nous, et des armes pour dire oui si une évolution favorable s'amorce, plus nous pouvons nous adapter, plus nous sommes efficaces. Le rôle du juge de l'application des peines, c'est de donner de la valeur aux efforts fournis. Il n'y a rien de pire que ce que j'appelle l'encéphalogramme plat. Et voilà pourtant ce que les gens que nous suivons ont très souvent vécu dans leur vie. Quoi qu'ils fassent, que l'acte soit positif, que l'acte soit négatif, zéro réaction, ni de la famille, ni de l'entourage, le plat. Ben nous, on est là pour mettre du relief dans la vie des gens. On est là pour donner de la valeur aux efforts que les personnes sont en capacité ou pas de faire. Et c'est uniquement si on fait ça, si on arrive à encourager les personnes dans ces efforts-là, que les personnes accepteront de s'engager avec nous et de changer un certain nombre de fonctionnements. Alors la loi, elle nous offre différents outils pour encourager, valoriser ou sanctionner. Tous ces outils sont indispensables également, je le dis clairement, à l'administration pénitentiaire qui ne pourrait pas assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements de son ressort si les personnes détenues n'avaient absolument aucune perspective. Alors on a d'abord comme premier outil les réductions de peine qui valident des efforts de comportement, d'engagement dans une réflexion, dans des soins, des activités. Si elles sont accordées, elles peuvent également être retirées à l'issue d'un incident. Elles peuvent également être utilisées après une sortie de prison comme support d'une mesure de surveillance judiciaire permettant d'imposer des obligations pour la durée des réductions de peine obtenues. C'est un peu compliqué comme système, mais ça veut dire que si vous avez eu 6 mois de réduction de peine, à votre sortie, vous n'êtes pas quitte. On va continuer à vous accompagner sur ces 6 mois, et si ça ne se passe pas bien, on peut rapporter cette réduction de peine. Autre outil essentiel, et on en a beaucoup parlé quand même dans l'actualité ces derniers temps, les permissions de sortir. C'est un outil assez formidable pour le juge. Pas seulement pour le juge, pour l'administration pénitentiaire et pour la personne elle-même. Alors on a globalement 3 catégories de permissions de sortir, celle pour les maintiens des liens familiaux, celle pour effectuer des démarches administratives, professionnelles, culturelles également, sportives. Et puis on a des sorties aussi pour des événements exceptionnels tels une naissance ou un décès. Et auquel cas, si les gens ne sont pas dans les conditions d'une permission de sortir, on peut quand même organiser une sortie sous escorte. Je ne vais pas vous donner les seuils de recevabilité permission par permission parce que c'est extrêmement complexe. Et c'est des choses, Bruno l'a rappelé, sur lesquelles nous avions travaillé dans la commission qu'il présidait. On aurait bien aimé une simplification. Mais disons que selon la durée de la peine prononcée, le seuil de recevabilité de la permission diffère. On peut de toute façon faire des enquêtes sur le lieu d'hébergement. Et on peut, évidemment, pour les actes les plus graves, on doit même demander l'avis de la personne victime. S'agissant des aménagements de peine, nous avons la libération conditionnelle qui est accessible lorsque l'on a fait la moitié de sa peine. On a aussi d'autres aménagements qui sont recevables à 2 ans de la fin de peine, comme la semi-liberté, c'est-à-dire dormir en prison et la journée sortir pour un travail, pour une recherche d'emploi, pour une activité. On a aussi la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, communément appelée bracelet électronique. Là, on peut vivre en société et on a des horaires de sortie qui sont décidés par le juge. De toute manière, pour accéder à l'ensemble de ces aménagements de peine, il est exigé la démonstration de l'implication dans un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Il y a encore quelques autres outils qui sont assez peu utilisés à partir de la prison, les conversions de peine, par exemple. C'est-à-dire que pour les peines en dessous de 6 mois, on pourrait les transformer en travail d'intérêt général, on pourrait les transformer en jour-amende, une manière de payer sa dette financièrement. On peut les transformer également en sursis probatoire renforcé, un accompagnement renforcé hors la détention. Et puis, il y a un mécanisme d'accès à des aménagements de peine qui s'appelle la libération sous contrainte, qui est destiné à empêcher la sortie sèche des personnes en fin de peine pour celles qui sont condamnées à des peines de moins de 5 ans. Pour chacune de ces décisions, de toute manière, l'avis de l'administration pénitentiaire est requis, de même que celui du procureur de la République, qui peut, comme le condamné, en faire appel. Alors, dans une société qui a l'aversion du risque, la prise de décision, c'est quand même un exercice difficile. Et juger, c'est évidemment décider. En s'entourant d'avis, en mesurant la portée sociale de son choix. J'ai pour habitude de dire que le juge ne crée pas le risque, mais qu'il le gère. Le juge qui refuse tout, n'accepte pas de vérifier des hypothèses avec ses partenaires. En réalité, il se protège lui-même, mais il n'assure pas la protection de la société. Si nous ne travaillons pas avec la personne détenue le temps de son incarcération, alors que nous avons des armes pour réagir en cas de besoin, nous n'assumons pas notre tâche et la personne sortira un jour de prison sans avoir pu s'y préparer et sans filet. Les études criminologiques montrent cette impérieuse nécessité de prévoir des étapes dans la préparation de la sortie et de le faire en s'ajustant à la réalité de la personne et de ses besoins. Mais alors, concrètement, comment on fait pour s'adapter ? En détention, tout est compliqué. Tout prend du temps, la moindre démarche. L'enfermement, la gestion de la promiscuité préoccupent les esprits. Les rôles se répartissent entre les détenus. Les relations nouées induisent des postures, des loyautés. En maison d'arrêt, les personnes condamnées à de courtes peines entrent et sortent sans qu'il soit possible de penser à une évaluation. On part au plus pressé, on gère l'urgence, les incidents s'il y en a, et on ne dispose pas de temps pour réfléchir la peine. L'indignité de certaines conditions de détention dans des prisons surpeuplées ne permet pas d'y garantir l'efficacité de la peine et l'objectif de réinsertion. En centre de détention et en maison centrale, le juge d'application des peines a plus de temps. Sait-il toujours l'utiliser pour approcher la réalité de la personne ? Comment évaluer pleinement une personne dans un contexte carcéral, en situation de contrainte, dans une vie qui ne ressemble pas à celle du dehors ? Et que dire d'une évaluation exclusivement centrée sur l'individu dans une vie hors contexte de sa vie future. On sait peu de choses finalement sur la manière dont la personne se comporte hors les murs, les soutiens dont elle dispose, ses réflexes, son mode de vie. Et là aussi, c'est important de disposer de ces outils de mise en situation concrète. Donc c'est ça le travail du juge, le parcours d'exécution de peine, le PEP, parcours d'exécution de peine. C'est s'inscrire là-dedans, dans un programme avec des partenaires. Et ce parcours, il faut bien le comprendre comme débutant certainement en détention, mais se poursuivant hors détention. Parce que la personne, lorsqu'elle est libérée en aménagement de peine, elle n'en a pas fini de rendre des comptes. Et sa peine poursuit son exécution sous une autre forme, mais avec des exigences et des sanctions possibles. Il ne s'agit pas, lorsque la peine est exécutée dans la communauté, d'en être dispensée, mais de travailler vers une autonomisation dans l'idée que la personne puisse, à la fin de l'intervention judiciaire, être suffisamment adaptée pour poursuivre sa vie avec des relais dans la société, sans récidiver. Avant cela, au-delà des mots et des promesses, le juge a besoin d'appréhender la personne en action. Et c'est là que l'organisation des permissions de sortir est essentielle. Les permissions de sortir permettent d'éviter ce détachement du réel, notamment pour les plus longues peines, d'amener la personne à percevoir, à anticiper les difficultés auxquelles elle sera confrontée à sa libération, de l'aider comme ça à réajuster ses projets. Et ce n'est pas seulement passer du temps en famille pour ceux qui en ont. Il faut de tout dans les permissions de sortir pour s'adapter aux personnes. Il faut du sport, il faut de la culture, il faut du bénévolat, il faut des stages en entreprise. Cette organisation d'activités tournées vers l'extérieur est d'autant plus efficace qu'elle permet également aux professionnels de l'administration pénitentiaire de porter un autre regard sur son métier, un autre regard sur les personnes détenues, et permet aux magistrats de l'application des peines de tester la capacité d'un condamné à investir une activité et à en respecter le cadre. Sur la sortie de délinquance, lorsque les gens s'y engagent, pour bien comprendre ce qui amène un individu à quitter ses habitudes de délinquance, les études qui ont été menées sur le sujet indiquent que la notion de processus est essentielle. Renoncer à une vie déviante n'est jamais le résultat d'une décision unique et isolée. C'est un processus de changement avec des vacillations, des ambivalences, des rechutes temporaires que l'on espère de moins en moins fréquentes et graves. Le juge doit donc porter un regard de moyen ou long terme, interpréter avec prudence les nouvelles infractions commises, mettre en perspective la gravité de l'acte avec les faits précédemment commis, se questionner sur ses choix d'intervention et leur impact. La motivation au changement ne se décrète pas, elle s'accompagne. Il faut amener la personne à se rendre compte de ses schémas de pensée, de comportement, prendre du recul, évaluer les conséquences de ses actes, développer des stratégies d'évitement, montrer assez régulièrement, finalement, des capacités créatives. Mais si le juge est seul dans ce travail-là, ça ne fonctionne pas. Le juge, il a du pouvoir. Le juge d'application des peines en a beaucoup, mais tout seul, il ne peut rien. Nous devons pouvoir compter sur l'éclairage de partenaires institutionnels comme l'administration pénitentiaire, les avocats, les experts, mais aussi sur des associations, des foyers, des visiteurs de prison, des structures de soins, des mairies, des entreprises. Il nous faut des relais en prison et hors la détention pour aider les personnes de bonne volonté à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés de concert. Et en ce sens, la délinquance, c'est l'affaire de tous. Je vous remercie et je vous laisse avec Véronique Soucet, donc, qui va maintenant vous emmener en prison et brosser brillamment, j'en suis certaine, le portrait de ce lieu complexe.
Merci.
J'ai entendu le silence qui régnait pendant que vous parliez du métier du juge de l'application des peines. Ça me fait très plaisir. À vous, Véronique.
Merci. Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je mesure l'immense honneur ce jour de prendre la parole devant vous, de faire entrer dans ce lieu prestigieux un peu de la prison, de ces hommes et ces femmes qui y exercent avec intérêt, conviction et humanisme, et un peu aussi de l'histoire d'autres hommes, d'autres femmes qui s'y trouvent détenus et avec lesquels nous avons l'ambition, jamais vaine, jamais résignée, de faire de ce temps de l'incarcération un temps utile pour eux, pour nous, car la réinsertion sociale est aussi gage de sécurité publique. L'honneur, disais-je, mais aussi l'humilité d'intervenir après la communication du directeur de l'administration pénitentiaire, M. Laurent Ridel, pour qui j'ai une profonde admiration, une grande estime et sous les ordres duquel j'ai servi avec fierté. Honneur et humilité guideront donc mon intervention. Mon défi est ce jour, à la place qui est la mienne, après le propos brillant de ma collègue Cécile Dangle, de contribuer à répondre à la question du sens de la peine et de son parcours lorsqu'elle s'exerce en prison, afin, ce faisant, de vous apporter une compréhension éclairée, animée de la volonté exprimée par ces mots de Paul Claudel que je fais mien. Mon désir n'est pas de créer l'ordre, ni d'apporter la liberté, mais simplement de rendre la prison visible. De l'image de l'hôtel 4 étoiles à celle du cachot, d'une bauge aux conditions indignes, aux clichés des séries américaines, la perception ordinaire de la prison est souvent empreinte de représentations éloignées de la réalité. La prison interroge, le sujet est clivant, trop ou pas assez. Mais l'administration pénitentiaire n'est pas seulement une administration d'exécution. Elle prend part aussi à la sécurité et à ce titre, à l'équilibre démocratique. Et parce qu'elle est assomption de la fragilité de l'être et de sa férocité, la prison parle aussi de nous, humains, trop humains. Les dimensions sont donc multiples et illustrent la complexité du sujet dans un monde qui tend à vouloir rendre tout intelligible en un instantané ou dans des rhétoriques expédiées. Or, la prison impose le temps long dans sa réflexion et son appréhension. Si la prison inspire répulsion et attraction, c'est aussi la figure du délinquant qui est enfermé, qui fascine et attise l'imaginaire. Parce qu'elle est un monde clos, qui recèle une part émergée de la violence d'une société, la prison cristallise les craintes, mais aussi les attentes, aussi ambitieuses qu'impossibles à atteindre. Se poser la question de ce qu'est la prison renvoie aussi nécessairement à ce qu'elle ne peut pas être. Cette institution, sommée de réussir là où les autres ont échoué, est parfois sévèrement jugée. Qu'elle soit perfectible, nul doute. Quelle organisation ne l'est pas lorsqu'elle a charge de femmes et d'hommes. Mais elle réunit des professionnels qui concourent à la sécurité publique, convaincus que leur rôle est essentiel pour donner à la peine sa pleine dimension. Un temps de césure pour envisager l'avenir autrement qu'en délinquant. Si c'est rarement une vocation qui conduit à choisir d'emblée le métier de surveillant, et on ne dira plus gardien, on garde des eaux, des cimetières, des places fortes, mais on surveille des hommes, elle advient après coup. L'actualité dramatique a posé une lumière crue sur la réalité de nos missions, de nos métiers. L'émotion qui a étreint chaque citoyen, l'hommage qui a suivi, ont participé à rappeler l'engagement des agents qui exercent avec pour devise honneur et discipline, et donner à voir la réalité du métier et des enjeux auxquels contribue chaque jour cette administration qui, tenue à l'écart des murs, sait si peu se dire en dehors d'un incident grave. Songez, lorsque vous arrivez dans une ville, les panneaux de signalisation indiquent toujours le commissariat, l'hôpital, le tribunal, rarement la prison ou juste à son abord. Cette institution qui n'est pas la honte de la République, comme un rapport parlementaire l'avait intitulé il y a 24 ans, eh bien le troisième service public de sécurité ne peut être le dernier. Les prisons ne sont pas celles de l'administration pénitentiaire, ce sont celles de la République. Nous sommes donc collectivement garants des conditions de la peine et de son exécution. La loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire posait pour la première fois une définition du service public en ses deux missions, la garde et la réinsertion. par la suite d'autres textes constitutifs, la loi pénitentiaire de 2009 et enfin un code pénitentiaire adopté par le Parlement dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, entrée en vigueur le 1er mai 2022. Outre sa dimension symbolique forte, il vise à rendre plus lisibles et accessibles les dispositions du droit pénitentiaire en les rassemblant à droit constant en un seul ouvrage. Le Code comprend 7 livres, pas moins de 1650 articles, issus des lois et décrets qui encadrent les fonctionnements du service public pénitentiaire et fixent les droits et les obligations des personnes détenues. Il contient toutes les normes applicables aux conditions de vie en détention, accès aux soins, règles d'hygiène, discipline, gestion des biens, visite, droits de correspondance. On y trouve également les règles concernant les dispositifs de réinsertion, la libération des personnes détenues, le suivi en milieu ouvert. La sémantique est révélatrice de la complexité et de la nuance avec laquelle il faut, me semble-t-il, aborder la matière. En effet, le mot « prison » désigne à la fois la sanction et le lieu de son exécution. La peine elle-même renvoie à une fonction classique de rappel à la loi, à la mission de préservation et de protection de la société, mais aussi à une dimension afflictive et infamante. Le sens de la peine ne peut être traité dans une perspective simplement fonctionnaliste. La signification de la peine n'étant pas univoque, une véritable approche éthique s'impose. Le philosophe Michel Serres, qui était membre de l'Académie française, exprimait ainsi sa conception de la peine lors du colloque inaugural à l'ouverture de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen en 2000. Si la peine a pour fonction symbolique essentielle la représentation de la violence sur la scène judiciaire, elle ne prend véritablement son sens que dans son contraire, tout aussi nécessaire, le pardon. Se poser la question du sens de la peine, c'est donc aussi se poser la question du sens de la prison. Quelle prison ? Ce singulier s'accorde au pluriel selon les conditions de détention et les régimes. Comment se structure-t-elle pour faire sens, malgré le paradoxe apparent, l'enfermement doit préparer le retour à la vie libre. La prison inscrit son action sur cette frontière entre dehors et dedans, une frontière solide, symbolisée par les hauts murs d'enceinte, mais qui doivent être perméables. Du dedans au dehors, la prison n'est pas uniquement le lieu de l'enfermement et de l'expiation, elle n'est pas non plus relégation, au risque de perdre son objectif, même si elle emporte une mise à l'écart pour protéger la société. Une administration de paradoxes, de limites qui enfonce sa singularité. L'administration pénitentiaire est une des directions du ministère de la Justice, dans le giron du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1911. D'une mesure de police, elle est devenue une mesure de justice. La peine n'est plus alors qu'une punition, elle devient la réponse pénale à l'infraction commise. L'administration pénitentiaire regroupe les lieux de privation de liberté, 187 prisons sur le territoire, en métropole, mais aussi dans l'outre-mer, et 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il y a ce que l'on nomme un milieu fermé et un milieu ouvert, chargé du suivi des personnes sous main de justice qui exécutent une peine en dehors d'un lieu clos, mais aussi toutes les peines aménagées, comme on l'a indiqué, la libération conditionnelle ou le placement sous surveillance électronique. Les mesures de suivi en milieu ouvert sont au nombre de 176 000, qu'elles soient pré-sententielles, post-sententielles ou mesures de sûreté. La prison n'est donc qu'une modalité d'exécution de la peine, même si elle demeure encore beaucoup la peine de référence. Si le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er mai 2024, 77 647 personnes incarcérées pour 61 000 places. Cette situation de surpopulation contraint 3 400 détenus à dormir sur un matelas au sol. La densité carcérale globale s'établit à 126%, mais atteint 150% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux qui sont condamnés à des courtes peines. Monsieur Laurent Ridel vous l'a aussi exprimé, cette surpopulation jamais connue en temps de paix est croissante. En 3 ans, les établissements pénitentiaires comptent plus de 17 000 détenus supplémentaires. Je tenais à partir de ce constat parce que cette réalité peut venir mettre à mal l'ambition de la prison. La privation de liberté n'est donc pas la seule conséquence dans le vécu de la peine. C'est le défi de la prison, son pari aussi. Comment concilier enfermement et réinsertion ? L'administration a des missions exigeantes. Dans son aspect sécuritaire, elle assure l'exécution d'une peine, peine d'emprisonnement pour les délits ou de réclusion pour les crimes. Mais elle est aussi comptable d'un amendement du condamné. Elle a une obligation de moyens afin que le temps de privation de liberté soit mis à profit pour évoluer, réfléchir, s'interroger, se soigner, s'éduquer, se former, se réadapter. L'objectif est de revenir dans la communauté des hommes, d'où les faits ont un temps délogé le condamné. La prison est donc un lieu ouvert et résolument tourné vers l'avenir. Le sujet impose un détour par quelques définitions qui permettent de comprendre le fonctionnement, mais aussi tous les lieux communs à dépasser. Il existe plusieurs types d'établissements, selon le quantum de la peine et le statut du détenu. Les établissements sont répartis selon un maillage, plus ou moins dense, selon les régions. Il y a 9 directions interrégionales et une direction des services d'outre-mer. Outre certains établissements au régime mixte ou centre de semi-liberté. Les maisons d'arrêt regroupent les condamnés à une peine inférieure ou égale à 2 ans et les personnes présumées innocentes en attente de jugement, celles qui sont en détention provisoire. Le terme de détention préventive n'a plus cours en droit depuis 1970, mais est encore souvent utilisé, sans doute parce que provisoire coïncide mal avec des détentions souvent longues en fonction des faits et des instructions. La maison d'arrêt est le lieu le plus connu dans le public, souvent associé à la surpopulation, à la promiscuité et ses effets désocialisants. On vous l'a dit, il n'y a pas de numerus clausus. En maison d'arrêt, on ne peut afficher complet. À l'inverse, les établissements pour peine, qui comprennent les centres de détention et les maisons centrales, selon le niveau de sécurité, ou centres pénitentiaires, quand ils comportent un double régime de détention, ne peuvent accueillir plus de détenus qu'ils n'ont de place. Le principe y est dans les faits celui de l'encellulement individuel et d'une relative autonomie de mouvement à l'intérieur. Ainsi, en centre de détention, les portes sont ouvertes de 7h à 20h, selon l'organisation de la prison, et les détenus ont la clé de leur cellule, dite de confort, clé de verrou de la porte, qui leur permet en journée de se déplacer et de se rendre au travail, au centre scolaire, à l'infirmerie, au parloir, à un rendez-vous avec le conseiller d'insertion et de probation ou à une audience avec la JAP. Se dessinent donc des modalités différentes d'exécution de peine. Le sens de la peine n'est pas donné, il est à construire pour chacun selon les lieux, les conditions et la capacité. Me reviennent en mémoire les mots d'un père, président d'une association d'enfants victimes, dont la fille avait été tuée par un criminel incarcéré dans la prison où j'exerçais. Une phrase prononcée avec un tesson d'émotion fiché dans la gorge, bien des années après le drame. « Assurez-moi que cet homme ne fait pas rien de son temps, que la prison sert à quelque chose. Car c'est bien cela aussi qu'attend légitimement la société, que la prison ait du sens. La prison est comme une société scrutée à la loupe. Tout y est plus important. Les épines domestiques, les petits riens sont exacerbés et les conditions comme les régimes de détention majorent ou minorent l'enfermement. Il y a dans chaque établissement pénitentiaire un règlement, des obligations, des autorisations. Le quotidien est rythmé par l'organisation carcérale, véritable métronome du lever au coucher. Et il faut veiller à ce que ce temps ne vienne pas déresponsabiliser, infantiliser, car l'emploi du temps est donné, contraint. Il y a donc une adaptation nécessaire et il faut composer avec le lieu, ce qui est possible d'y faire. D'autres services publics y interviennent. Le service hospitalier, au sein d'une unité sanitaire, des personnels hospitaliers dispensent des soins, suivis somatiques et psychiatriques. Ici comme ailleurs, les praticiens manquent pour faire face aux pathologies et proposer une prise en charge à tous ceux qui en ont besoin. Le service de l'éducation nationale est aussi présent dans chaque établissement. Une école et des professeurs assurent des cours, de l'alphabétisation à la lutte contre l'illettrisme à des études supérieures, et du travail au service de la collectivité ou en atelier pour des tâches de façonnage, travail de conditionnement ou des travaux plus qualifiés pour un concessionnaire privé. Quelques exemples de la fabrication d'éphémérides, à l'emballage de parfums de luxe ou parfois même un centre d'appel chargé par un opérateur de téléphonie de campagne de sondage et de questionnaire de satisfaction clientèle. Les formations professionnelles contribuent aussi à cette socialisation. Elles sont proposées et désormais financées par les conseils régionaux au titre de leur budget relatif aux personnes empêchées ou publics précaires éloignés de l'emploi. L'idée est bien de dispenser une formation et d'acquérir des savoirs qui pourront être valorisés. Formation en bâtiment, en peinture, en électricité, en menuiserie, en restauration, ou plus innovante, pour correspondre aux besoins et favoriser l'employabilité. Les liens avec l'extérieur sont assurés. Le maintien des liens familiaux, quand il y a une famille ou des proches encore présents, s'exerce dans des parloirs, plusieurs fois par semaine, dans une salle commune ou des box individuelles, sous la surveillance des agents, mais aussi au sein des UVF, unités de visite familiale, des unités où le détenu peut recevoir sa famille selon un rythme défini, entre 6h et 72h, dans des locaux qui sortent d'appartements à l'intérieur de l'enceinte, sans surveillance constante. Maintien des lieux aussi par l'accès au téléphone, alors celui autorisé et contrôlé maintenant, qui est installé dans nombre d'établissements en cellule, et par le courrier, qui est contrôlé, toujours sous pli ouvert, sauf pour celui échangé avec son avocat ou des autorités. Il conserve la confidentialité. Le sens de la prison est aussi très dépendant de l'architecture et des conditions de détention. La charge forte et contraignante du nombre de détenus accueillis peut lester et compromettre la mission. En maison d'arrêt, la surpopulation vient mettre à mal et questionne chaque jour le sens de la prison. Supporter de cohabiter 100 heures à 3 ou 4 dans 9 mètres carrés, n'est-ce pas déjà un effort de réadaptation? En établissement pour peine, une fois condamné définitif, le détenu peut être admis en centre de détention. Le régime, je vous l'ai dit, est plus ouvert. Sa vocation est de préparer la sortie. Le régime est plus responsabilisant afin de favoriser ce retour à la liberté. Il y a donc des rencontres et des volontés qui convergent. Même s'il faut aussi faire avec la personne, ses capacités, ses freins, ses addictions, ses troubles. En maison centrale, où le régime est strict, sécuritaire, Ces établissements accueillent des personnes détenues condamnées à des longues peines, particulièrement signalées et surveillées, qui présentent un risque au regard du quantum de la peine, du profil dangereux ou des risques, des antécédents judiciaires par exemple, pour lequel l'enjeu est d'abord d'assurer une exécution de peine effective et sereine. La sortie s'envisage néanmoins, mais à plus long terme, en appréciant avec une exigence aiguë les gages sérieux de réadaptation sociale. L'évolution de la délinquance impose aussi de revoir les organisations et des espaces dédiés. Il a fallu faire face au terrorisme, à l'incarcération de prévenus, de condamnés, de détenus radicalisés, penser les stratégies de gestion, de regroupement, de séparation dans des unités étanches du reste de la détention pour prévenir les risques de passage à l'acte et adapter le travail dans un objectif de réaffiliation sociale et de désengagement de la violence. La prison est une institution en mouvement, elle évolue et s'adapte, tenue de concilier des impératifs juridiques, le respect de la norme, du droit et des injonctions sécuritaires, parfois contradictoires. Les établissements pénitentiaires n'offrent pas, si je puis le dire, les mêmes prestations de service ni les mêmes espaces disponibles. De la prison construite à la fin du XIXe siècle sur le modèle du panoptique de Bentham, souvent à la place centrale des villes, entre le commissariat et le tribunal, à la prison des programmes immobiliers successifs, dont le dernier, plan de 15 000 places, il y a des différences de structure et de mode de gestion, public ou privé, ce qui signifie que dans ce dernier cas, tous ceux qui ne relèvent pas de missions régaliennes sont délégués à un prestataire privé. Ce mode de construction et de gestion a été mis en œuvre en 1987 sous l'impulsion du garde des Sceaux de l'époque, Albin Chalandon, pour faire face déjà à un accroissement de la population pénale et répondre à l'impératif, dans un délai court, de livraison de nouvelles places de prison et d'augmentation de la capacité du parc pénitentiaire. Les places et les contraintes bâtimentaires, la vétusté ou l'exiguïté obligent donc à s'adapter. Lorsque la prison est vaste, elle est aussi moins anxiogène. Les espaces facilitent la sectorisation entre les délinquants, préviennent la violence, rendent plus aisée la mise en place de programmes et suscitent l'adhésion. C'est ainsi que dans l'actuel programme immobilier sont envisagées de nouvelles structures, comme les SAS, structures d'accompagnement vers la sortie. Elles sont rattachées à un centre de détention. Elles visent à favoriser l'autonomisation, la responsabilisation, afin d'accompagner une sortie proche. Elles ont vocation à accueillir des personnes dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans, selon une orientation établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et le programme comprend des interventions individuelles et collectives et une plateforme d'accès à divers dispositifs de droit commun. Elles sont conçues pour s'intégrer dans l'environnement urbain. Le programme prévoit la construction de 2100 places de ce type, la reconversion de quartiers existants et la livraison de 16 structures nouvelles de 90 à 180 places. Un autre type de structure, dite insert, toujours dans cet esprit visant à décloisonner et à favoriser l'insertion dans la cité, voit le jour. Établissements tournés vers l'extérieur, ils incluent dans leur conception des liens renforcés avec les territoires d'implantation et ses partenaires institutionnels, économiques et sociaux, la possibilité de contact entre le public et les personnes détenues dans un espace dit citoyen, ce qui est résolument innovant et modifiera la perception de la prison. Les conditions de détention dignes et respectueuses sont une exigence humaniste et républicaine, et l'opinion publique doit se convaincre qu'elle participe aussi à la bonne exécution de la peine, à ce qu'elle attend légitimement de la prison. Il n'y a donc pas une prison, mais des prisons, dont la finalité, au-delà de la mission de garde, et de garantie de l'effectivité de la peine est de préparer la réinsertion dans le souci constant de reposer les bases du contrat social bafoué par le crime ou le délit commis. Quelle prison pour quel parcours ? La peine, n'est pas comme la flèche du temps tracée sur une ligne droite, mais les courbes sinusoïdales. Alternance de temps fort, le procès, l'incarcération, puis de résignation, d'acceptation, parfois d'effondrement. Le parcours est un aménagement du temps. En prison, pour reprendre les paroles de la chanson « L'Ostendaise » de Jacques Brel, il y a du temps qui attend et du temps qui espère. Le parcours vers la réinsertion est un chemin souvent escarpé, où chaque pas compte, les efforts, les projets, les rendez-vous judiciaires. Comme la sanction est individualisée en droit, le parcours en prison doit l'être aussi. Une fois condamné, le détenu peut notamment, pour les longues peines et en fonction des faits commis, être orienté vers le Centre national d'évaluation, chargé de définir, en fonction des antécédents et des capacités, l'établissement le plus adapté à ce parcours. Cet objectif est toujours celui recherché. Mais parfois, cette ambition est plus modeste et vise seulement à rétablir les conditions du vivre ensemble. Il s'agit avant d'envisager un projet, de travailler sur la violence, les addictions, les risques, les facteurs de protection, comme ceux de vulnérabilité. Car il y a des hommes, des femmes, leur histoire et leur acceptation de la peine, leur rapport aux victimes, leur culpabilité et le poids des années. L'arrivée en détention se fait donc en maison d'arrêt, là où les conditions, je vous l'ai dit, sont les plus âpres. Le choc carcéral est bien entendu vécu différemment selon les personnes, selon le délit ou le crime commis, selon que l'on est prévenu ou condamné. Il peut être amoindri, ce choc, pour ceux qui répètent inlassablement ce passage, ceux qui vont et reviennent, mais il varie aussi selon l'histoire, la trajectoire de celui ou celle, moins nombreuse, on vous l'a dit, les femmes représentent un peu plus de 3% de la population carcérale, donc varie selon cette histoire et cette trajectoire, et se voient tous attribuer un numéro d'écrou. C'est un signe performatif, celui qui fait passer au statut de détenu. Une part de l'identité est tronquée, et c'est tout le professionnalisme des équipes qui permet que la personne ne soit pas réduite à ce numéro. Le détenu passe par le greffe, puis par le vestiaire. Il dépose encore un peu de lui, ses papiers d'identité, l'argent et les valeurs, les bijoux. Outre l'alliance, les bijoux ne sont pas laissés à disposition, que ceux qui ne sont pas ostentatoires et qui ne sont pas susceptibles de susciter la convoitise. Car l'arrivée en prison est aussi l'expérience exacerbée de la vie en collectivité et de la violence induite par cette promiscuité, en cellule, mais aussi en ce lieu où il n'y a de silence qu'en soi. La personne détenue qui souhaite travailler demande à être classée au travail. Elle est recrutée par une entreprise extérieure ou au service général, je le disais, au service de la collectivité pour l'entretien des locaux, la confection des repas, la distribution des cantines. Depuis le 1er mai 2022, le recrutement se fait au moyen d'un contrat d'emploi pénitentiaire qui garantit les droits des détenus travailleurs en ce qui concerne la rémunération, les conditions de travail, les cotisations et la protection sociale. Le contrat tend à se rapprocher du contrat de travail de droit commun. Certes, les rémunérations sont moindres, adaptées aux conditions et à l'attractivité que doit conserver pour un employeur le travail en prison. Il doit composer, en effet, avec les contraintes sécuritaires et les cadences qui ne peuvent être celles requises à l'extérieur. Mais le travail est primordial. Il permet d'être occupé, d'être rémunéré, de s'acquitter des obligations pécuniaires à l'égard des parties civiles, de payer les amendes et de se constituer un pécule pour la sortie. En outre, il offre à certains un cadre jusque-là peu éprouvé, qui sera un gage de réussite quand viendra le temps de la sortie. Pour accompagner ce parcours, l'assise partenariale de l'administration pénitentiaire est indispensable. Le travail en équipe, surveillant, conseiller d'insertion et de probation, et de multiples partenaires, associatifs, institutionnels. C'est une communauté pénitentiaire, chacun à sa place, chacun dans son champ de compétences. Mais ici, plus qu'ailleurs, la pluridisciplinarité a du sens et convoque les regards croisés. D'ailleurs, comment regarder autrement un homme, une femme détenue ? C'est un travail qui inclut la société, car la prison est dans la cité. Elle n'est donc pas seule à faire de spécialiste. Je vous l'ai indiqué, de multiples intervenants institutionnels, mais des partenaires. J'avais compté qu'entraient environ 150 personnes, outre le personnel, dans une prison sur une journée. La culture, le sport, les activités ne sont pas récréatives, mais sont fondamentales dans la construction d'un parcours, comme les permissions de sortie. Je ne peux pas ne pas vous en dire un mot. Elles sont conçues comme un temps dans l'exécution de la peine et elles ont pour objectif de confronter les condamnés à la réalité de la sortie, même lointaine, même incertaine. Reprendre contact avec l'extérieur, retrouver des repères, élargir l'horizon. Elles ont, sur celui et celle qui en bénéficie, des effets physiques. Marcher sans limite d'espace, ne plus arpenter que des surfaces planes, mais se réadapter au dénivelé. Lorsque l'on a passé des années en détention, de la cellule au couloir, du poste de travail à l'infirmerie, du bureau de la psychologue à la bibliothèque, de la promenade au terrain de sport, de la coursive au parloir, du greffe au bureau du chef de détention. Effet physique, mais aussi psychique. Se confronter à l'impossible retour vers le passé ou comment raccorder les fils d'une matrice abîmée, d'une vie décousue. Sans la société civile, la prison ne peut remplir sa mission. Pour cela, il faut qu'elle soit ouverte et mobilise celui qui purge sa peine, comme l'on dit. Tous ceux qui participent aux efforts de réinsertion sont des gages de réadaptation sociale. Ces éléments sont étudiés par le juge de l'application des peines. L'intéressé travaille-t-il ? Se soigne-t-il ? Rembourse-t-il les parties civiles ? Peut-il recouvrer la liberté sans risque pour la société ? Le maintien en détention a-t-il encore du sens ? Or, les réductions de peine, dont la réforme récente rend leur appréciation plus exigeante, sont aujourd'hui un fort enjeu à l'épreuve de la surpopulation qui pèse en maison d'arrêt, évidemment, mais aussi en établissement pour peine, où l'occupation des places est saturée. Agir sur l'entrée en proposant des alternatives à l'incarcération, en aménageant la peine ab initio. Penser la sortie comme une étape, en envisageant des libérations anticipées, assorties d'obligations, de suivi. La sortie aménagée, que l'on oppose à la sortie sèche, est le rempart le plus efficace contre la récidive. Mais aussi reconsidérer les critères d'octroi de réduction de peine et s'entendre sur ce qui est attendu d'un parcours en détention. La judiciarisation de l'application des peines a donné au juge une place centrale dans l'examen de ce parcours. C'est l'exécution de cette peine et de ses effets en termes de prévention de la récidive qui est appréciée lors des commissions d'application des peines, des débats contradictoires, des tribunaux d'application des peines. Le rattachement de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice a donc tout son sens. Alors je l'affirme ici, un peu plus fort que j'en aurais eu l'intention, la prison est un lieu de justice, où elle s'exerce et se rend. Comme il n'y a de peine utile que la juste peine, le temps passé en prison doit préparer l'avenir, en se souvenant que quelle que soit la durée de la peine, la porte d'entrée est toujours celle de la sortie. Pour clore, je vous livre les mots confiés par un détenu sortant de prison après des années en détention. Je l'avais souvent imaginé quand il est arrivé ce jour de la sortie. L'émotion ne survient ni à l'endroit, ni au moment où on pourrait s'y attendre. Le réel est si différent. L'imaginaire nous a égarés. Sortir soulève les sédiments d'une vie mise à l'écart. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces deux communications complémentaires. Merci à vous, Véronique, pour nous avoir fait pénétrer, comme vous l'avez fait, dans les lieux de détention.